Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les finances municipales au Québec. On va décortiquer ensemble des extraits d'un rapport économique de 2025.
Oui, le chapitre 5, Regard sur l'économie. Un portrait assez révélateur.
C'est ça. L'idée, c'est de comprendre les tensions budgétaires, le défi des infrastructures vieillissantes, puis aussi les solutions qui émergent, comme l'écofiscalité.
Surtout dans un contexte provincial, disons, un peu morose, hein? Le déficit annoncé, la décote de crédit des SNP.
Exact. Même si certaines villes comme Laval s'en tirent un peu mieux côté crédit, le portrait global est complexe. Notre mission, c'est de saisir ces enjeux qui touchent les finances locales, puis ben les services aux citoyens au bout du compte.
Puis le point de départ, c'est souvent la dépendance aux taxes foncières. C'est énorme. On parle d'environ 70 % des revenus municipaux.
70 %? C'est beaucoup.
Ben oui. Puis politiquement, c'est sensible. Hein? Augmenter les taxes, personne n'aime ça, mais c'est le levier principal pour financer des services quand les responsabilités augmentent.
Le rapport utilise une image assez marquante. Le système de Ponzi pour le développement municipal. Peux-tu nous expliquer ça un peu?
C'est une analogie forte, oui. Ça suggère que pendant longtemps, on a financé les dépenses courantes, genre l'entretien de base, avec les revenus générés par les nouveaux développements.
OK.
Mais sans vraiment mettre assez d'argent de côté pour l'entretien à long terme des infrastructures qu'on avait déjà. Fait que, quelque part, on repousse la facture.
Puis ça crée une iniquité entre les générations, c'est ça. Les nouveaux payent pour les manques du passé.
Exactement. Les redevances que les nouveaux acheteurs paient servent en partie à combler ce manque. C'est une forme d'iniquité intergénérationnelle, oui.
Et pendant ce temps-là, les routes, les égouts, les aqueducs, ça vieillit.
Précisément. Le rapport chiffre le déficit d'entretien des actifs, le fameux DMA, à plus de 37 milliards au Québec. C'est majeur. On parle de 44 % des infrastructures qui seraient en mauvais état.
44 % Wow!
Oui. Puis ça a des impacts directs. On voit aussi la pression quand des gros projets provinciaux sont reportés, comme en santé, en avril 2025. Ça affecte l'économie locale.
On a vu des exemples concrets, non? Montréal, avec ses budgets changeants. Longueuil, avec la baisse des droits de mutation.
Oui, ou même Cantelé, avec un déficit cumulé. Ça illustre bien les difficultés.
Face à ça, il y a eu des négociations avec Québec. La déclaration de réciprocité qui remplace l'ancien pacte fiscal. Est-ce que ça aide vraiment?
Bien, l'entente 2024-2028 met sur papier 5 priorités. Climat, logement, personnes vulnérables, aménagement durable, infrastructure d'eau. C'est déjà ça.
Il y a des nouveaux fonds aussi.
Oui, 500 millions sur 5 ans pour le climat, 100 millions pour l'eau, puis le transfert d'un point TVQ. C'est un gain, mais il faut rester réaliste.
C'est-à-dire?
Bien, comme le disait l'ex-maire Peignot-Jobin, ça reste loin des besoins réels. Juste pour l'adaptation climatique, les estimations tournent autour de 10 milliards. L'écart est encore considérable.
Alors, les villes doivent trouver d'autres solutions elles-mêmes, j'imagine?
Oui, elles explorent. Il y a l'optimisation des processus internes. L'exemple de Jean-Luc Boyer à Montréal pour les contraventions, ça montre qu'il y a des économies possibles.
Puis l'idée des fusions, des regroupements, ça revient.
Ça revient, mais cette fois, souvent initié par les municipalités elles-mêmes, en Chaudière-Appalaches, en Estrie. L'économiste François Desrosiers pense qu'il y a un potentiel, là, surtout pour les petites municipalités de moins de 5 000 habitants.
La mutualisation aussi, c'est une piste?
Certainement. Partager des services comme un centre aquatique entre l'Assomption et la Valtrie ou un parc industriel régional comme Victoriaville, Doveluville et Mallington Falls. C'est du concret.
Parlons de l'écofiscalité. Taxer ce qui pollue pour financer le virage vert. Où on en est au Québec avec ça?
On est un peu en retard si on se compare à d'autres pays de l'OCDE ou même d'autres provinces canadiennes. C'est ce que des études comme celle de Lannoy et Tremblay-Racicot montrent.
Le gouvernement provincial semble prudent.
Oui, le ministre Girard l'avait signalé en 2023. Mais ça n'empêche pas les municipalités d'avancer. On voit plusieurs initiatives.
Comme quoi, par exemple?
Ben, la tarification du stationnement dans plusieurs villes, la taxe sur les stationnements non résidentiels à Montréal... Moduler la taxe foncière selon la densité, le fameux COES.
Le coefficient d'occupation du sol, oui.
C'est ça. Ou une redevance pour la perte d'arbres à Victoriaville, une taxe sur les systèmes au mazout à Laval, la tarification de l'eau à Alma ou Montréal, ou celle des matières résiduelles à Beaconsfield, Gatineau. Il y a des choses qui se font.
Mais sur des sujets plus controversés, comme la taxe kilométrique, ça bloque au provincial, hein?
Oui, refus catégorique. On invoque la vie privée, même si les données existent souvent déjà et que plusieurs experts le recommandent.
Et l'opinion publique, elle est où là-dedans?
Partagée. Un sondage léger pour Équitare montrait une division sur taxer selon la taille du véhicule ou mettre des péages en ville. C'est pas simple.
Pendant ce temps, les villes demandent des outils comme le programme PACE.
Oui, en février 2025, elles demandaient de pouvoir l'implanter. C'est un prêt pour des rénos énergétiques remboursés via les taxes foncières, un outil intéressant.
Juste un mot sur le contexte plus large, le prix du carbone. Faut pas mélanger la taxe fédérale abolie puis le marché du carbone Québec-Californie, le SPED.
Exact. Le SPED, lui, est maintenu. L'Assemblée nationale l'a même réappuyé en avril 2025. Mais son efficacité réelle fait débat. Des experts comme Martin, Delorme, Pinault soulèvent des questions.
Donc, pour résumer, les municipalités sont vraiment prises entre l'arbre et l'écorce.
C'est pas mal, ça. Des responsabilités qui augmentent climat, logement, infrastructures, puis des revenus traditionnels qui suffisent plus, le tout avec un gouvernement provincial qui serre la ceinture.
Ce rapport, au fond, il expose des défis financiers, mais aussi une question d'équité entre générations et une certaine lenteur à adopter des outils fiscaux différents, comme l'éco-fiscalité.
Oui.
Ça laisse son genre. Face à l'urgence climatique, aux besoins criants en infrastructures, comment les municipalités peuvent innover fiscalement pour assurer les services de demain sans juste refiler la facture aux prochaines générations, surtout si Québec tarde à jouer un rôle plus actif là-dedans? C'est la question qui reste.